Dres fut bien heureux de trouver parmi les nombreuses archives qu'il parcourut un plan détaillé de la cathédrale, ainsi que de l'ancienne église sur les ruines de laquelle elle avait été construite, et dont les soubassements avaient servi à bâtir la fameuse crypte. À l'heure du déjeuner, il poussa même la roublardise jusqu'à se faire porter un bon repas. Et quand le soir fut venu, on fit évacuer la cathédrale pour l'y laisser seule. Chapitre 133. Quand Robin et Alice se présentèrent à leur tour devant le palais de Helmirez, Andreas n'y était pas. Il était déjà à l'intérieur des murs pour suivre son plan diabolique. Mais l'apprenti remarqua rapidement le signe que son maître avait laissé sur le mur. « Il est venu ici !» s'exclama le rouquin en désignant le caducé. « Et s'il nous a laissé un signe, c'est pour nous le faire savoir et nous dire sans doute que ceci reste notre point de rendez-vous. Alors, attendons-le. » Et c'est ce qu'ils firent toute la matinée. Mais évidemment, l'apothicaire n'apparut guère. « Cela devient dangereux de rester ici, en plein jour, » dit Alice. « Mais si nous partons, nous risquons de le rater de nouveau, et il ne saura pas que nous sommes venus. »« Nous pourrions lui laisser un signe à notre tour, » suggéra la jeune fille. « C'est une bonne idée. »«
Mais quoi ?»
Robin réfléchit. « Eh bien, toi qui es si doué pour la sculpture, saurais-tu graver un moissonneur ?»«
Bien sûr, mais pourquoi ?»«
C'est l'origine de mon nom, Maisonnier. »«
Tu penses qu'il comprendra ?»«
Évidemment. »
La jeune fille acquiesça, et au pied du mur, se cachant derrière Robin qui faisait le guet, elle grava la silhouette d'un homme coupant les blés avec une faux. Puis, ils décidèrent de retourner dans l'oréo où ils avaient passé la nuit. Là, ils firent passer le temps, en discutant, apprenant encore à mieux se connaître. Et la jeune Occitane s'occupa à sculpter de nouvelles statuettes sous le regard admiratif de l'apprenti. Voici toutefois ce que nos deux adolescents ignoraient. De l'autre côté de la place du palais, les deux Malachim, qui avaient quitté leurs chevaux, avaient assisté à toute la scène.
« Suivons-les, » avait grogné sur Yann.
« Oui, mais restons cachés. Si nous leur tombons dessus maintenant, ils ne parleront pas. Attendons plutôt qu'ils retrouvent leur maître. »
Ainsi, les deux cavaliers noirs restèrent tout le jour à les épier dans leur grenier de bois.
Chapitre 134. À présent, que nul ne me dérange et que le Seigneur guide mes pas en ce lieu saint qui fut hier profané par l'hérésie d'un assassinat. Et l'assassinat d'un hérétique. Et si je ne puis traquer le démon hors de ses murs, que mes yeux versent des larmes jour et nuit sans tarir. Car alors la colère de Dieu leur tombera dessus, et ce sera grande misère pour cette ville de pèlerinage. »
Sous le regard terrifié du chanoine et des clercs, Andreas pénétra seul dans la sombre et massive cathédrale de pierre grise, par la porte nord, dite porte de France, qu'il referma derrière lui. Là, le sourire aux lèvres, il descendit 3 ou 4 degrés, traversa un grand espace où étaient des sortes de boutiques à coquilles, statuettes et autres chapelets, et découvrit l'intérieur de la vaste église, déserte et silencieuse, tout entière offerte à son investigation. Deux chœurs s'alignaient sous la voûte en berceau de la cathédrale, ce qui était d'usage en ce pays. Le premier abritait l'autel et était le plus grand. Le second lui succédait, séparé de lui de 10 ou 12 pas par une allée formée de grilles de fer. Andreas, qui n'était là que pour une seule chose, entendu la crypte et son tombeau, ne porta que très peu d'attention au reste de l'édifice. Ses chapelles, ses colonnes, ses innombrables statues, toutes ces prouesses architecturales et artistiques dont elle avait fait l'objet au cours des 2 derniers siècles, et se dirigea d'emblée vers le maître-chœur. Là, était un foisonnement de décors et d'ornements qui subjuguait le regard. Plusieurs belles figures de saints finement sculptées de gracieux détails, 8 chandeliers de la hauteur de 5 à 6 pieds, un autel d'or et d'argent massif, sur lequel des piliers élevaient un tabernacle, et au-dessus de celui-là, Saint Jacques était à hauteur d'homme, assis dans un fauteuil, le bourdon à la main et la tête nue. Sur les côtés du chœur,